Ivanhoé, chapitre 35. Revenons maintenant à Isaac d'York. Monté sur une mule, présent de l'Outlaw, et accompagné des deux yeomens destinés à lui servir de guide et à le protéger, le juif était parti pour la commanderie de Templestowe, afin de négocier la rançon de sa fille. La commanderie n'était située qu'à une journée de marche du château en ruine de Torquilstone, et le juif avait l'espoir d'y arriver avant la nuit. En conséquence, ayant congédié ses guides au sortir du bois et les ayant gratifiés d'une pièce d'argent, il se mit à presser sa marche avec toute la diligence que lui permettaient ses précédentes fatigues. Mais les forces lui manquèrent tout à fait à environ 4 milles de la demeure des Templiers. Il ressentit des douleurs aiguës dans tous les membres, douleurs que les angoisses de son esprit rendaient plus vives encore. Et il fut contraint de s'arrêter à un petit bourg où demeurait un rabbin juif de sa tribu, expert en médecine, et dont il était bien connu. Nathan ben Israël accueillit son compatriote souffrant avec cette bonté que la loi prescrivait et que les juifs exerçaient les uns envers les autres. Il insista pour qu'Isaac prît du repos et employa ses remèdes les plus efficaces pour ralentir le progrès de la fièvre que la terreur, la fatigue, les mauvais traitements et le chagrin avaient attiré au pauvre juif. Le lendemain, quand Isaac se disposa à se lever et à continuer sa route, Nathan s'opposa à son dessein, non seulement comme hôte, mais encore comme médecin. « Cela pourrait vous coûter la vie, » disait-il. Mais Isaac répondit, « Il y va pour moi plus que de la vie à accomplir mon voyage à Templestowe. »
« À Templestowe ? » s'écria son hôte avec surprise.
Il lui tâta le pouls une seconde fois, puis il murmura en lui-même. Sa fièvre s'est calmée, cependant sa raison semble l'abandonner.
« Et pourquoi n'irai-je pas à Templestowe ? » répondit le malade.
« J'en conviens avec toi, Nathan. Là habitent des hommes pour qui les enfants méprisés de la terre promise sont un objet de rebut et d'abomination. Cependant, tu n'ignores pas que les affaires pressantes du commerce nous poussent quelquefois parmi ces soldats nazaréens altérés de sang, et que nous visitons les commanderies des Templiers aussi bien que celles des Hospitaliers, ainsi qu'on les nomme.
« Mais je sais tout cela, » répondit Nathan. « Mais toi, ignores-tu que Lucas de Beaumanoir, le chef de leur ordre, ou, comme ils l'appellent, le grand maître de l'ordre, est en ce moment à Templestowe ?»«
Je l'ignorais, » dit Isaac. « Les dernières lettres de nos frères de Paris annoncent qu'il était dans cette capitale, implorant de Philippe des secours contre le sultan Saladin.
Il est arrivé en Angleterre, sans que ses fraises l'attendissent, » dit Ben Israël. « Et il vient parmi eux plein de courroux et le bras étendu pour les corriger et les châtier. » Il est enflammé de colère contre ceux qui ont violé leurs vœux, et la crainte de ses fils de Bélial est grande. Tu dois avoir entendu parler de lui.
Il est bien connu, dit Isaac. Les gentils représentent ce Lucas de Beaumanoir comme un homme zélé pour tout ce qui touche la gloire nazaréenne. Et nos frères l'ont nommé le destructeur des Sarrasins et le tyran des enfants de la promesse.
« Et ils l'ont bien nommé, » reprit le médecin. « Les autres templiers se laissent détourner du devoir par le plaisir, ou corrompre et suborner par l'or et l'argent. Mais Beaumanoir est un homme d'une autre trempe. Il hait la sensualité, il méprise la richesse et brûle de gagner ce qu'ils appellent la couronne du martyr. Puisse le Dieu de Jacob la lui envoyer promptement, à lui et à eux tous. » Cet homme orgueilleux fait surtout peser sa main sur les enfants de Juda, comme David fit peser la sienne sur Édom, regardant l'assassinat d'un juif comme une offrande aussi agréable à Dieu que celui d'un sarrasin. Il a vomi des faussetés contre les vertus de nos médicaments, comme si c'était des inventions de Satan. Que la main du Seigneur le châtie.
« À tout prix !» s'écria Isaac. « Il faut que je me présente à Templestowe. Sa colère dut-elle s'enflammer comme une fournaise, cette fois chauffée ?» Alors il fit connaître à Nathan le motif de son voyage.
Celui-ci lui témoigna sa sympathie, et selon la coutume de son peuple, en déchirant ses vêtements et en s'écriant « Ah, pauvre fille! Ah, pauvre fille! Hélas, qu'est devenue la beauté de Sion? Hélas, Israël est captif !»« Tu vois, reprit Isaac, que je ne puis rester. La présence de ce Lucas de Beaumanoir, leur chef, pourra peut-être détourner Brillant de Bois-Guibert du mal qu'il médite, et peut-être me rendra-t-il ma fille chérie Rebecca. » « Eh bien, pars !» dit Nathan ben Israël. « Mais sois prudent, car la sagesse préserva Daniel dans la fosse au lion, et elle pourra également être utile et réaliser les désirs de ton cœur. Cependant, si tu le peux, évite la présence du grand maître, car sa plus grande satisfaction, du matin au soir, c'est de traiter notre peuple avec mépris. Peut-être que, si tu pouvais parler en particulier à Bois-Guibert, tu réussirais mieux avec lui. » Car on dit que ces maudits nazaréens ne sont pas tous d'accord entre eux dans la commanderie. Que Dieu confonde leurs projets et les couvre de honte. Mais je t'en conjure, frère, reviens ici, comme tu reviendrais à la maison de ton père, pour m'instruire du résultat de ta démarche. J'espère que tu ramèneras avec toi Rebecca, cette digne élève de la sage Myriam, dont les gentils ont calomnié les cures médicales en les attribuant à la sorcellerie. Isaac prit congé de son ami, et après une course d'une heure à cheval, il se trouva devant la commanderie de Templestowe. Cet établissement des Templiers était situé au milieu des belles prairies et des pâturages, dont la dévotion du dernier commandeur avait gratifié leur ordre. Il était vaste et bien fortifié, précaution qui ne fut jamais négligée par ses chevaliers, et que les troupes d'Angleterre rendaient surtout nécessaire. Deux hallebardiers, vêtus de noir, gardaient le pont-levis, tandis que d'autres, portant aussi ce triste uniforme, se promenaient sur les remparts d'un pas lugubre, ressemblant plutôt à des spectres qu'à des soldats. Les officiers subalternes de l'ordre portaient le même costume noir, depuis que l'usage des vêtements blancs, pareils à ceux des chevaliers et des écuyers, avait été usurpé dans les montagnes de la Palestine, par une congrégation de faux frères se disant templiers et jetant par leur brigandage un grand déshonneur sur l'ordre. De temps en temps, on voyait un chevalier traverser la cour, enveloppé de son grand manteau blanc, la tête penchée sur la poitrine et les bras croisés. Quand ils se rencontraient par hasard dans la cour, ils passaient les uns devant les autres, se faisant un salut lent, solennel et muet. Car telle était la règle de l'ordre, suivant cette maxime des textes sacrés. Ce n'est pas le moyen d'éviter le péché que de parler beaucoup. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En un mot, la rigueur ascétique de la discipline du temple, qui depuis si longtemps avait fait place à la licence et au libertinage, semblait tout à coup revivre à Templestowe, sous l'œil rigide de Lucas de Beaumanoir. Isaac s'arrêta devant la porte pour réfléchir aux moyens de se procurer l'entrée du château, et à la manière d'être favorablement écouté, car il n'ignorait pas que, pour sa race malheureuse, le fanatisme de l'ordre n'était pas moins dangereux que la luxure effrénée, et que sa religion deviendrait le prétexte de la haine et de la persécution. Dans ce cas, aussi bien que sa richesse l'exposait, dans l'autre, aux extorsions d'une rapacité implacable. En ce moment, Lucas de Beaumanoir se promenait dans un petit jardin appartenant à la commanderie, faisant partie de la fortification extérieure. Il avait une triste et confidentielle conversation avec un frère de son ordre qu'il avait amené de la Palestine. Le grand maître était un homme d'un âge avancé, comme le prouvait sa longue barbe blanche et ses sourcils déjà grisonnants. Ses sourcils, néanmoins, ombrageaient des yeux dont les années n'avaient pu éteindre le feu. Guerrier redoutable, bigot ascétique, ses traits maigres et sévères conservaient l'expression farouche du soldat, et ils étaient également remarquables par la maigreur, fruit de l'abstinence, et par l'orgueil religieux du dévot satisfait de lui-même. Cependant, malgré toute la sévérité de son aspect, on découvrait en Lucas de Beaumanoir quelque chose d'imposant et de noble, qui, sans doute, était dû aux fonctions que sa haute dignité l'appelait à remplir auprès des monarques et des princes, et à l'exercice habituel de l'autorité suprême sur les chevaliers vaillants et aristocratiques rangés sous la règle de l'ordre. Sa taille était élevée, et sa prestance, que l'âge et la fatigue avaient respectée, était droite et majestueuse. Son manteau blanc était d'un modèle régulier et sévère, et coupé selon la règle même de Saint Bernard. Il était fait de ce qu'on appelait alors « drap de bure », et collait exactement sur sa taille, laissant voir, cousue sur l'épaule gauche, la croix à 8 branches en drap rouge, particulière à cet ordre. Ni vert ni hermine n'ornaient ce vêtement. Mais, en raison de son âge, le grand maître portait un pourpoint doublé et bordé de peau douce d'agneau, la laine en dehors, ainsi que la règle le permettait. Et c'était tout ce qu'elle autorisait en fait de fourrure, qui, à cette époque, était un objet de toilette du plus grand luxe. Il tenait à la main ce singulier abacus, ou bâton de commandement, avec lequel on représente souvent les Templiers. Ce bâton avait à son extrémité supérieure une plaque circulaire sur laquelle était gravée la croix de l'ordre entourée d'un cercle, ou orlet, comme disaient les héros. Le chevalier qui accompagnait ce grand personnage portait à peu près le même costume que lui, mais l'extrême déférence qu'il montrait envers son supérieur faisait voir qu'aucune autre égalité n'existait entre eux. Le commandeur, car tel était son rang, ne marchait pas de front avec le grand maître, mais un peu en arrière. Pas assez loin, cependant, pour que Beaumanoir fût obligé de tourner la tête en lui parlant. « Conrad, disait le grand maître, cher compagnon de mes combats et de mes fatigues, ton cœur fidèle est le seul où je puisse déposer mes chagrins. À toi seul, je puis dire combien de fois, depuis mon arrivée dans ce royaume, j'ai désiré mourir et reposer avec les justes. Il n'y a pas dans toute l'Angleterre un seul objet sur lequel mes yeux aient pu se reposer avec plaisir, hormis les tombeaux de nos frères, situés sous les voûtes massives de l'église du Temple, dans son orgueilleuse capitale. « Oh, vaillant Robert de Ross, me suis-je écrié en moi-même en contemplant ces braves soldats de la croix, gisant sculptés sur leur sépulture. Oh, excellent Guillaume de Maréchal, ouvrez vos cellules de marbre et laissez partager votre repos à un frère fatigué, qui aimerait mieux avoir à combattre 100 000 païens que d'être témoin de la décadence de notre ordre sacré. » Il n'est que trop vrai, répondit Conrad Montfichet. Il n'est que trop vrai, et les dérèglements de nos frères d'Angleterre sont encore plus graves que ceux de nos frères de France. Parce qu'ils sont plus riches, répondit le grand maître. Pardonne un peu de vanité, mon cher frère. Tu sais la vie que j'ai menée, observant religieusement tous les statuts de mon ordre, luttant contre les démons visibles et invisibles, terrassant le lion mugissant qui cherche qui il pourra dévorer, et le faisant en bon chevalier et en prêtre dévot partout où je l'ai rencontré, ainsi que nous l'a prescrit le bienheureux Bernard dans le 45e chapitre de nos règlements, « Ut Leo semper feriatur ». Mais par le Saint-Temple, par le zèle qui a dévoré ma substance et ma vie, qui a consumé jusqu'à mes nerfs et à la moelle même de mes os, par ce temple sacré, je te jure que, excepté toi et un petit nombre de mes frères qui conservent encore l'ancienne austérité de notre ordre, je n'en vois aucun digne de ce saint nom. Que disent nos statuts? Et comment nos frères les observent-ils? Ils ne devraient porter aucun ornement mondain, ni panache sur leur casque, ni éperon d'or, ni bribe dorée, et cependant, qui se pare plus splendidement que ces pauvres soldats du temple? Par nos statuts, il leur est défendu de se servir d'un oiseau pour prendre un autre oiseau, de chasser à l'arc ou à l'arbalète, de sonner du cor ou de poursuivre le gibier à cheval. Mais aujourd'hui, la chasse, la fauconnerie, la vénerie, la pêche, qui est plus enclin à toutes ces folles vanités que les templiers. il leur est défendu de lire d'autres livres que ceux que leur supérieur autorise, ou d'écouter aucune lecture si ce n'est celle des Saintes Écritures pendant les heures des repas. Mais voilà que leurs oreilles sont ouvertes à tous les ménestrels vagabonds et que leurs yeux étudient leurs vaines romances. Il leur a été enjoint d'extirper la magie et l'hérésie, et voilà qu'on les accuse d'étudier les secrets cabalistiques des Juifs et la magie païenne des Sarrasins. On leur a prescrit la frugalité dans les repas, l'usage de la viande seulement 3 fois par semaine, parce que l'abus de cette nourriture engendre une corruption honteuse du corps. Et voici que leur table plie sous le poids d'une nourriture délicate et recherchée. L'eau pure devrait être leur seule boisson, et maintenant tout homme qui veut passer pour un joyeux compagnon se vante de boire comme un templier. Ce jardin même, tout rempli qu'il est de plantes précieuses et d'arbres curieux transplantés des climats de l'Orient, conviendrait mieux au harem d'un émir infidèle qu'à un couvent où des moines chrétiens ne devraient cultiver que de modestes légumes. Encore, mon cher Conrad, si le relâchement de la discipline s'arrêtait là, tu le sais. On nous a défendu de recevoir ces femmes dévotes, qui dans l'origine étaient agrégées comme sœurs de notre ordre, parce que, dit le 46e chapitre, le vieil ennemi, par le moyen de la fréquentation de la femme, a su détourner bien des hommes du bon chemin du paradis. Bien plus, le dernier chapitre, qui est pour ainsi dire la clé de voûte que notre vénérable fondateur a placée comme couronnement de sa doctrine pure et immaculée, nous défend de donner même à nos sœurs et à nos mères le baiser d'affection. Ut omnium mulierum fugiantur oscula. Mais j'ai honte de le dire, j'ai honte d'y penser. La corruption nous a inondés comme un déluge. Les âmes de nos chastes fondateurs, celles de Hugues de Payen, de Godefroy de Saint-Omer et de ces 7 saints qui se sont réunis les premiers pour le service du temple, sont troublées même dans les joies célestes du paradis. Je les ai vus, Conrad, dans mes visions de la nuit. Leurs yeux sacrés versaient des larmes sur les péchés et les folies de leurs frères, et sur leur luxe honteux et leur libertinage effréné. Beau manoir, m'ont-ils dit, tu dors, réveille-toi, il y a une flétrissure qui souille le sanctuaire du temple, flétrissure profonde et avilissante comme celle que laissent les sillons de la lèpre sur les murs des maisons infectées des enfants de l'Égypte. Les soldats de la croix, qui devaient fuir le regard de la femme comme l'œil du basilic, vivent publiquement dans le péché, non pas seulement avec les filles de leur propre culte, mais avec les filles maudites des païens et des juifs, plus maudits encore. Beau manoir, tu dors, lève-toi et venge-nous, tue les pécheurs, hommes et femmes. La vision s'est envolée, Conrad, mais en me réveillant, j'entendais encore le froissement des cottes de mailles, et je voyais onduler les manteaux blancs de nos saints. Oui, je veux obéir à leurs commandements. Je veux purifier le sanctuaire du temple, et les pierres impures et pestiférées, je les arracherai et les jetterai loin de l'édifice. Songe-y bien cependant, révérend père, dit mon fichier, cette flétrissure s'est invétérée par le temps et l'habitude. Que ta réforme soit prudente, comme elle est sage et juste. Non, mon fichier, répondit le vieillard, il faut qu'elle soit rapide et radicale. Notre ordre touche à une crise funeste. La sobriété, le dévouement et la piété de nos prédécesseurs nous avaient gagné de puissants amis. Notre présomption, notre richesse et notre luxure nous ont suscité de formidables ennemis. Il faudra que nous nous dépouillions de ces richesses, qui offrent une tentation aux princes. Il faudra humilier cet orgueil qui les offense. Il faudra refréner cette licence de mœurs, qui est un scandale pour toute la chrétienté. Rappelle-toi mes paroles. L'ordre du temple, sans cette réforme, sera complètement détruit, et la place même qu'il occupait ne sera plus connue des nations que comme une ruine. Que Dieu détourne de nous une pareille calamité, s'écria le commandeur. Amen, répondit le grand maître d'un ton solennel. Mais il faut nous efforcer de mériter son secours. Je te dis, Conrad, que ni les puissances célestes, ni les puissances terrestres ne peuvent supporter plus longtemps la perversité de cette génération. Mes informations sont positives. Le terrain sur lequel notre édifice est bâti est déjà miné, et chaque pierre que nous ajoutons au monument de notre grandeur ne fera que l'entraîner plus tôt dans l'abîme. Il faut retourner sur nos pas et nous montrer les champions fidèles de la croix, en lui sacrifiant non seulement notre sang et notre vie, non seulement nos voluptés et nos vices, mais même notre bien-être, notre aisance et nos affections naturelles. Enfin, nous devons agir comme des hommes convaincus que bien des plaisirs, légitimes pour les autres, sont criminels pour les soldats du temple. En ce moment, un écuyer vêtu d'un manteau noir râpé, car dans cet ordre sacré, les aspirants pendant leur noviciat portaient les vieux vêtements des chevaliers, entra dans le jardin et, s'inclinant profondément devant le grand maître, garda le silence, n'osant prendre sur lui de s'acquitter de la commission avant d'y être autorisé. « N'est-il pas plus convenable, dit le grand maître, de voir ce Damien, vêtu d'habits qui respirent l'humilité chrétienne, se tenant dans un silence révérencieux devant son supérieur, que de le voir dans le costume qu'il portait il n'y a que 2 jours, alors que le vaniteux s'était affublé d'un habit de couleur et babillé avec autant d'insolence et d'orgueil qu'un fat ? Parle, Damien, nous te le permettons. De quoi s'agit-il ? Un juif s'est présenté à la porte, révérend père, dit l'écuyer. Il désire parler au frère brillant de Boisguibert. Tu as bien fait de m'en donner connaissance, dit le grand maître. En notre présence, un commandeur n'est qu'un simple membre de notre ordre, et doit marcher non pas selon sa volonté, mais selon celle de son maître, conformément au texte. Il m'a entendu et il m'a obéi. Il nous importe surtout de connaître la conduite de ce Boisguibert, continua-t-il en se retournant vers son compagnon. La renommée le proclame brave et vaillant chevalier, reprit Conrad. La renommée ne se trompe pas, continua le grand maître. Il n'y a que pour la valeur que nous n'ayons pas dégénéré. Mais le frère brillant est entré dans notre ordre par caprice et désappointement, entraîné, je n'en doute pas, à prononcer nos vœux et à renoncer au monde, non par la sincérité d'une vocation sincère, mais comme un homme qu'un mécontentement léger aurait poussé vers la pénitence. Depuis, il s'est toujours montré agitateur actif et dangereux raisonneur, chef enfin de tous ceux qui discutent notre autorité, oubliant que la règle est tracée au grand maître par le symbole du bâton et de la verge, le bâton pour soutenir le faible et la verge pour châtier le coupable. « Damien, continua-t-il, amène le juif en notre présence. » L'écuyer se retira en saluant profondément et revint au bout de quelques minutes, suivi d'Isaac d'York. Jamais esclave conduit devant un prince puissant n'approcha du siège de son juge avec plus de respect et de terreur que le juif en s'approchant du grand maître. Quand il fut arrivé à une distance de 3 pas, Beaumanoir lui fit signe avec son bâton de ne pas avancer davantage. Le juif s'agenouilla sur le sol, qu'il baisa en signe de respect. Puis, se levant, il se tint devant les 2 templiers, les mains croisées sur sa poitrine, la tête penchée sur son sein, avec toute la soumission d'un esclave d'Orient. « Damien, dit le grand maître, retire-toi. Que quelques gardes se tiennent prêts à répondre à notre appel et que personne n'entre dans le jardin avant que nous l'ayons quitté. » L'écuyer salua et se retira en s'inclinant. « Juif, continua le hautain vieillard, écoute-moi. Il ne sied pas à notre dignité d'avoir avec toi un long entretien, et nous ne prodiguons à personne ni nos paroles ni notre temps. Sois donc succinct dans les réponses aux questions que je vais te poser. Et que tes paroles soient sincères, car si ta langue cherche à me tromper, je te la ferai arracher. » Le juif se disposait à répondre, mais le grand maître poursuivit. « Tais-toi, infidèle ! Pas un mot en notre présence, si ce n'est pour répondre à nos questions. Quelle est l'affaire pendante entre toi et notre frère brillant de Bois-Guilbert. » Isaac soupira de terreur et d'incertitude. Raconter son histoire n'était-ce pas être une cause de scandale pour l'ordre? Cependant, s'il ne la racontait pas, quel espoir pouvait-il conserver encore d'obtenir la liberté de sa fille? Beaumanoir vit son appréhension mortelle et daigna le rassurer. « Ne crains rien, lui dit-il, pour ta misérable personne, juif, pourvu que tu agisses avec droiture. Je te demande de nouveau de me dire quelle affaire te conduit vers Brillant de Bois-Guibert. « Je suis porteur d'une lettre, balbutia le juif, sous le bon plaisir de votre révérente valeur, pour ce bon chevalier, de la part d'Aimer, prieur de l'abbaye de Jorvaux. Ne te disais-je pas que nous vivions dans un temps pervers, Conrad ? Demanda le grand maître. Un prieur de l'ordre de Cîteaux envoie une lettre à un soldat du temple et ne peut trouver de messager plus convenable qu'un juif infidèle. Donne-moi cette lettre. Isaac, d'une main tremblante, ouvrit les plis de son bonnet arménien où il avait déposé la lettre du prieur pour plus de sûreté. Il allait s'approcher, la main tendue et le corps penché pour la mettre à portée de son sinistre interrogateur. « Arrête, chien !» s'écria le grand maître. « Je ne touche les mécréants qu'avec mon épée. Conrad, prends la lettre du juif et donne-la-moi. » Beaumanoir, ayant reçu la lettre des mains de Montfichet, en examina l'enveloppe avec soin, puis il se mit à délier les fils qui l'entouraient. « Révérend père, dit Conrad en l'arrêtant, quoique avec beaucoup de déférence, est-ce que vous romprez le cachet ?»« Et pourquoi non ?» dit Beaumanoir en fronçant le sourcil. « N'est-il pas écrit au 42e chapitre « De lectione literarum » qu'un templier ne recevra pas de lettre, fût-ce même de son père, sans en donner communication au grand maître et sans la lire en sa présence ?» Alors il parcourut la lettre à la hâte, avec une expression de surprise et d'horreur. Il la relut ensuite plus lentement. Puis, l'offrant à Conrad d'une main et la frappant légèrement de l'autre, il s'écria « Voilà de singulières choses qu'un chrétien écrit à un chrétien, et tous deux sont membres, et membres distingués de corporations religieuses. Ô Christ » ajouta-t-il avec solennité et en levant les yeux au ciel. « Quand viendras-tu avec les vanneurs pour séparer l'ivraie du bon grain ?» Montfichet prit la lettre de son supérieur et allait la parcourir. « Lis-la tout haut, Conrad, dit le grand maître. « Et toi, juif, sois bien attentif, car nous te questionnerons relativement à cette lettre. » Conrad lut la lettre qui était conçue en ces termes. « Aimer, par la divine grâce, prieur de la maison de Cîteaux de Sainte-Marie de Jorvaux, à Sire Brillant de Bois-Guibert, chevalier du Saint-Ordre du Temple, souhaite joie et santé, accompagné de tous les dons et faveurs du roi Bacchus et de Dame Vénus. Quant à nous, chers frères, nous sommes captifs entre les mains d'hommes proscrits, sans loi ni religion, qui n'ont pas craint de retenir notre personne et de nous mettre à rançon. Par eux, nous avons appris tout à la fois le funeste destin de Front de Bœuf et ta fuite avec cette belle sorcière juive dont les yeux noirs t'ont ensorcelé. Nous nous réjouissons beaucoup de te savoir en sûreté. Néanmoins, nous te prions d'être sur tes gardes, relativement à cette nouvelle magicienne d'Andorre, car nous avons appris secrètement que votre grand maître, qui ne donnerait pas un fétu de toutes les joues roses et de tous les yeux noirs du monde, arrive de Normandie pour mettre des bornes à votre vie joyeuse et faire cesser vos infractions à la règle. Or, nous te prions cordialement de prendre garde et de veiller, comme dit le Saint-Texte, « Inveniantur vigilitantes ». Le juif opulent, père de la Rebecca, Isaac d'York, m'ayant demandé une lettre de recommandation, nous lui avons donné celle-ci. Nous te conseillons ardemment et te supplions d'accepter la rançon qu'il doit offrir pour la demoiselle, car il peut te donner de quoi acheter 50 jeunes filles à des conditions plus sûres. J'espère bien en avoir ma part quand nous festoirons ensemble, en vrais frères, sans oublier la coupe. Car le texte ne dit-il pas « Vinum laetificat cor hominis » et encore « Rex delectabitur pulcri tudine tua ». Jusqu'à cette joyeuse rencontre, nous te disons adieu. Donné dans un antre de brigands vers l'heure des matines. Aimer, père, S.M., Jorvan Lainsis. Postscriptum. En vérité, ta chaîne d'or n'est pas restée longtemps en ma possession. Elle servira maintenant à suspendre, autour du cou d'un outlaw voleur de daims, le sifflet avec lequel il appelle ses chiens. Qu'en dis-tu, Conrad ? Demanda le grand maître. Une caverne de voleurs. C'est un séjour très convenable pour un pareil abbé. Il ne faut plus s'étonner si la main de Dieu s'appesantit sur nous, si dans la Terre Sainte nous perdons ville à ville, et si nous reculons pied à pied devant les infidèles, quand nous avons des ecclésiastiques tels que ce prieur Aimer. Mais que veut-il dire par cette nouvelle magicienne d'Andorre ? Demanda-t-il à demi-voix à son confident. Conrad connaissait mieux que son supérieur, grâce peut-être à la pratique, le jargon de la galanterie. Il expliqua le passage qui embarrassait le grand maître. Il lui dit que c'était une sorte de langage employé par des hommes mondains à l'égard des femmes qu'ils aimaient d'amour. Mais cette explication ne satisfit pas l'austère beau manoir. « Il y en a plus que tu ne devines, Conrad, » reprit le grand maître. « La simplicité de ton cœur ne peut sonder ce profond abîme de méchanceté. Cette Rebecca Diorc est une élève de cette Myriam dont tu as entendu parler. Tu vas voir que le juif ne tardera pas à en convenir lui-même. » Puis, se tournant vers Isaac, il lui dit à haute voix, « Ta fille est donc la prisonnière de Brian de Bois-Guibert ?»« Oui, révérend père, » balbutia le juif Isaac. « Et tout ce qu'un pauvre homme peut offrir pour sa rançon... »«
Tais-toi !»
interrompit le grand maître. « Ta fille a pratiqué l'art de guérir, n'est-ce pas ?»«
Oui, gracieux seigneur, » répondit le juif avec plus de confiance. « Et chevaliers et paysans, nobles et vassaux, peuvent tous bénir ce don heureux que le ciel a daigné lui accorder. Bien des gens peuvent témoigner qu'elle les a rétablis par son art. » Quand tout autre remède humain avait échoué, mais la bénédiction du Dieu de Jacob était sur elle.
Beaumanoir se tourna vers Montfichet avec un sourire amer.
« Vois, mon frère, dit-il, les ruses de l'ennemi qui nous dévore. Voilà les amorces avec lesquelles il pêche les âmes. Il donne un court espace de vie sur la terre en échange du bonheur éternel. Notre règle sainte dit vrai. « Samper percutiatur leo devorans. Frappons le lion, frappons le destructeur !» s'écria-t-il en brandissant son abacus mystique comme pour défier les puissances des ténèbres. « Ta fille opère des guérisons, je n'en doute pas, » dit-il en s'adressant encore aux Juifs, « au moyen de paroles magiques, d'amulettes enchantées et autres mystères cabalistiques. »
« Non, révérend et brave chevalier, répondit Isaac, c'est principalement à l'aide d'un baume, d'une vertu merveilleuse.
« De qui tient-elle son secret ? Demanda Beaumanoir.
« Il lui a été transmis, répondit Isaac, par Myriam, une sage matrone de notre tribu.
« Ah, juif imposteur ! « N'est-ce pas cette même sorcière Myriam dont les abominables maléfices sont connus de toute la chrétienté ?»
s'écria le grand maître en faisant le signe de la croix. Son corps fut brûlé sur les bûchers et ses cendres furent jetées aux quatre vents. Puisse-t-il m'en arriver autant à moi et à tous les membres de l'ordre, si je ne traite pas d'eux-mêmes et plus sévèrement encore son élève ? Je lui apprendrai à jeter des sorts sur les soldats du temple. Allez, Damien, jetez ce juif à la porte. « Tuez-le s'il fait résistance. Quant à sa fille, nous agirons envers elle comme la loi chrétienne et nos devoirs spéciaux nous en donnent le droit. » Le pauvre Isaac fut entraîné et expulsé de la commanderie. Ni ses supplications, ni ses offres même ne furent écoutées.
il ne vit rien de mieux à faire que de retourner à la maison du rabbin pour prendre ses conseils dans cette affreuse position. Car jusqu'alors, il avait craint pour l'honneur de sa fille, et maintenant il devait trembler pour sa vie. De son côté, le grand maître ordonna que l'on fît venir devant lui le commandeur de Templestown. Chapitre 36. Albert de Malvoisin, président ou, en langage de l'ordre, précepteur de l'établissement de Templestown, était le frère de ce Philippe de Malvoisin, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans le cours de cette histoire. Et ainsi que ce baron, il était étroitement lié avec Brian de Boisguibert. Parmi les hommes dissolus et sans principe, déjà trop nombreux dans l'ordre du Temple, on pouvait distinguer Albert. Mais différent en cela de l'audacieux Boisguibert, qu'il savait étendre sur son ambition le voile de l'hypocrisie, et remplacer son manque de religion par une apparence de fanatisme superstitieux. Lors même que l'arrivée du grand maître n'eût pas été si soudaine et si inattendue, il n'y aurait rien eu à Templestown qui eût décelé un relâchement de discipline. Et même, quoique pris à l'improviste et jusqu'à un certain point découvert, Albert de Malvoisin écoutait avec tant de respect et de contrition apparente les réprimandes de son supérieur. Il mettait un tel empressement à réformer tout ce qui avait encouru sa censure. En un mot, il réussissait si bien à donner un aspect de dévotion ascétique à une société à donner à la licence et au plaisir, que Lucas de Beaumanoir commença à concevoir une opinion plus élevée des mœurs du commandeur que celle qu'il en avait eue au premier moment. Mais les sentiments favorables du grand maître furent considérablement altérés quand il apprit qu'Albert était une juive captive, et, ce qui était à craindre, la maîtresse d'un chevalier de l'ordre. Quand Albert se présenta devant lui, Beaumanoir le regarda avec sévérité. « J'apprends, dit-il, que dans cette maison consacrée à Dieu et au Saint-Ordre du Temple, une femme juive a été amenée par un frère en religion, et vous avez souffert qu'elle y fût introduite, sire commandeur ?» Albert de Malvoisin resta confus et interdit, car la malheureuse Rebecca avait été enfermée dans une partie du bâtiment reculée et secrète, et toutes les précautions avaient été prises pour y dissimuler sa présence. Il lut dans les regards de Beaumanoir sa ruine, ainsi que celle de Boisguibert, s'il ne trouvait quelque moyen de détourner l'orage. « Pourquoi gardez-vous le silence ? » continua le grand maître. « M'est-il permis de répondre ? » demanda le précepteur d'un ton de voix empreint de la plus grande humilité, bien que par cette question il n'eût voulu que gagner un instant pour mettre de l'ordre dans ses idées. « Parlez, je vous le permets, » dit le grand maître. « Parlez, et dites-moi si vous connaissez le chapitre de nos règles. « De comilitionibus templi in sancta civitate. » Quicum miserimis milieribus versantur propter oblectationem canis. Assurément, très révérend père, reprit le précepteur, je n'ai pu atteindre à cet office dans notre ordre sans connaître une de ses défenses les plus sérieuses. D'où vient donc, je te demande encore une fois, que tu aies souffert qu'un de nos frères introduisît ici une maîtresse, et qui plus est, une sorcière juive, pour la souillure de cette demeure ? Une sorcière juive ? S'écria Albert de Malvoisin. Que les bons anges veillent sur nous ! Oui, mon frère, une sorcière juive, dit le grand maître sévèrement. Je l'ai dit, ose nier que cette Rebecca, la fille de ce vil usurier Isaac d'York et l'élève de cette sorcière impure Myriam, soit en cet instant, quelle honte de le penser et de le dire, soit logée dans l'enceinte de cette préceptorerie qui t'est confiée. Votre sagesse, mon révérend père, répondit le précepteur, a effacé les ténèbres de mon intelligence. Aussi étais-je grandement étonné qu'un si bon chevalier que Brian de Boisguibert sembla si follement subjugué par les charmes de cette femme que je n'ai reçu dans cette maison que pour être à même de mettre un obstacle à leur intimité toujours croissante, qui, sans cela, eût pu être cimentée aux dépens du salut de notre vaillant frère en religion.
« Rien ne s'est donc encore passé entre eux ?» demanda le grand maître.
« Quoi ? Sous ce toit ?» reprit le précepteur en se signant. « Que Sainte Madeleine et les 11 000 vierges nous en préservent ! Non, si j'ai péché en la recevant ici, ça a été dans la trompeuse pensée que je pourrais ainsi arrêter le funeste entraînement de notre frère pour cette juive. » Entraînement qui me semblait si étrange et si fatal que je ne pouvais l'attribuer qu'à un léger dérèglement de l'esprit, plus digne encore de pitié que de blâme. Mais puisque votre révérende sagesse a découvert que cette coupable juive est une sorcière, peut-être ceci peut-il expliquer la cause de cet étrange attachement.
« Cela l'explique, » dit Beaumanoir.
« Voyez, mon frère Conrad, le danger de céder aux premiers artifices, aux premières fascinations de Satan. Nous arrêtons nos regards sur une femme seulement pour satisfaire le plaisir des yeux et pour contempler ce que les hommes appellent la beauté, et le vieil ennemi, le lion dévorant, obtient par là un avantage sur nous, pour compléter par charme et par talisman une œuvre qui n'a été commencée que par l'oisiveté et la folie. Il peut se faire que notre frère Bois Guilbert mérite en ceci plutôt la pitié que le châtiment, plutôt le soutien du bâton que les coups de la verge, et que nos avertissements et nos prières puissent le faire revenir de sa faiblesse et le rendre à ses frères.
« Il serait bien dommage, dit Conrad Montfichet, que l'ordre des Templiers fit le sacrifice d'une de ses meilleures lances, lorsque la sainte communauté doit réclamer le secours de tous ses fils. Ce brillant de Bois Guilbert a tué de sa propre main plus de 300 sarrasins.
« Le sang de ces chiens maudits, dit le grand maître, sera une offrande agréable et douce aux saints et aux anges qu'ils méprisent et qu'ils blasphèment, et dont le secours nous aidera à rompre les charmes et les sortilèges, où notre frère se trouve enlacé comme dans un filet. Il rompra les liens de cette Dalida, comme Samson a rompu les deux cordes neuves avec lesquelles les Philistins l'avaient attaché, et il taillera en pièces des monceaux d'infidèles. Quant à cette vile sorcière qui a jeté ses sortilèges sur un frère du Saint-Temple, assurément elle sera mise à mort. »
« Mais les lois de l'Angleterre, dit le précepteur, qui, bien que charmé que le ressentiment du grand maître, ainsi heureusement détourné de Bois Guilbert et de lui-même, eût pris une autre direction, commençait maintenant à craindre qu'il ne fût porté trop loin.
« Les lois de l'Angleterre, interrompit Beaumanoir, permettent et enjoignent à chaque juge de rendre la justice dans les limites de sa juridiction. Le moindre baron peut arrêter, juger et condamner une sorcière trouvée sur ses domaines. Ce pouvoir sera-t-il contesté au grand maître du temple dans la préceptorerie de son ordre ? Non. Nous jugerons et condamnerons. La sorcière ne souillera plus la terre, et la vertu de ses sortilèges finira avec elle. Commandeur, faites préparer la grande salle du château pour le jugement de la sorcière. »
Albert de Malvoisin salua et se retira. Ce n'était pas, comme on doit bien le penser, pour exécuter les ordres du grand maître, mais pour chercher Bois Guilbert et s'entendre avec lui sur les suites probables de cette affaire, qu'Albert se retira avec tant d'empressement. Il trouva le Templier dans un transport de colère causé par un nouveau refus qu'il venait d'essuyer de la part de la belle juive.
« L'insensé ! Cria-t-il. « L'ingrate, mépriser celui qui, au milieu du sang et des flammes, a sauvé sa vie au péril de la sienne. Par le ciel, Malvoisin, je suis resté là jusqu'à ce que les planchers et les poutres s'écroulassent autour de moi. J'étais devenu le but d'une centaine de flèches qui résonnaient sur mon armure comme la grêle sur les vitres d'une croisée. Et je me servais de mon bouclier que pour la défendre. Voilà ce que j'ai souffert pour elle. » Et maintenant, cette fille opiniâtre me reproche de ne pas l'avoir laissée périr. elle me refuse non seulement la plus légère preuve de sa reconnaissance, mais encore la moindre espérance que jamais elle ne consentira à m'écouter. Le diable qui a créé l'opiniâtreté pour son sexe en a concentré toute la force dans sa seule personne.
Je crois, répondit le précepteur, que le diable vous possède l'un et l'autre. Combien de fois vous ai-je recommandé la prudence, sinon la chasteté? Ne vous ai-je pas dit que vous trouveriez assez de demoiselles chrétiennes qui regarderaient comme un péché de refuser à un si brave chevalier le don d'amoureuse merci? Et malgré mon avis, vous donnez votre affection à une juive obstinée et volontaire. Par la messe, je crois que le vieux Lucas de Beaumanoir a bien deviné juste quand il affirme qu'elle a jeté un charme sur vous.
« Lucas de Beaumanoir ? » s'écria Boisguibert d'un ton de reproche. « Sont-ce là vos précautions, mal voisin ? Tu as donc souffert que le vieux radoteur a pris la présence de Rebecca dans la préceptorerie ? » ?»«
Comment aurais-je pu l'empêcher ? » demanda le précepteur. « Je n'ai rien négligé pour lui cacher ce secret, mais il a été trahi. Par qui ? C'est ce que le diable seul peut dire. Cependant, j'ai arrangé la chose avec autant d'adresse que possible. Vous êtes sauvé si vous renoncez à Rebecca. » On vous plaint comme la victime d'une illusion magique. Quant à elle, c'est une sorcière. Elle doit mourir comme telle.
Elle ne mourra pas, je le jure par le ciel, reprit Boisguibert. Par le ciel, elle mourra, car il le faut, dit Malvoisin. Ni vous, ni moi, ni personne ne pourrait la sauver. Lucas de Beaumanoir a décidé que la mort de la juive serait une offrande suffisante pour expier toutes les fautes amoureuses des chevaliers du temple. Et vous savez qu'il a non seulement le pouvoir, mais la volonté d'exécuter un dessein si raisonnable et si pieux.
Mais les siècles futurs croiront-ils jamais qu'un fanatisme si stupide ait jamais existé ? S'écria Boisguibert, arpentant la chambre à grands pas.
« Je ne sais ce qu'ils pourront croire, » reprit doucement Malvoisin. « Mais je sais bien que, de notre temps, le clergé et les laïcs, au nombre de 99/100, crieront « Amen » à la sentence du grand maître.
« Albert, tu es mon ami, n'est-ce pas ? » s'écria Boisguibert. « Tu te prêteras à sa fuite, et je la transporterai en quelque endroit plus sûr et plus secret que cette maison. »
« Je ne le puis, quand même je le voudrais, » répondit le précepteur. « Cet établissement est rempli de serviteurs du grand maître et de gens qui lui sont dévoués. Et pour être franc avec vous, mon frère, je ne m'embarquerai pas volontiers dans cette affaire, alors même que j'aurai l'espoir de réussir. J'ai déjà assez risqué pour l'amour de vous. Je ne veux pas encourir la sentence de la dégradation, ni même perdre mon office pour l'amour d'une poupée juive. » Et vous, si vous voulez suivre mon conseil, vous abandonnerez cette chasse frivole pour lâcher votre faucon sur une autre proie. Songez, Boisguibert, que votre rang actuel, vos honneurs futurs, tout, enfin, dépend de votre place dans l'ordre. Si vous persistez follement dans votre folle passion pour Rebecca, vous donnerez à Beaumanoir le pouvoir de vous bannir, et il ne le laissera pas échapper. Il est jaloux du bâton de commandement qu'il tient dans sa main tremblante, et il sait bien que votre poing vigoureux est là pour l'étreindre. N'en doutez pas, il sera votre ruine si vous lui fournissez un aussi bon prétexte que la protection dont vous couvririez une sorcière juive. Laissez-lui le champ libre en cette occasion, car vous ne pouvez l'emporter sur lui. Quand le bâton sera dans vos mains, vous pourrez caresser ou brûler les filles de Judée selon votre bon plaisir.
« Malvoisin, » répondit Boisguibert, « ce sang-froid est celui d'un ami, » dit le précepteur, se hâtant de remplir la lacune dans laquelle Boisguibert aurait placé un mot beaucoup moins doux. « Oui, j'ai le sang-froid d'un ami, et par conséquent, je suis propre à vous donner un bon conseil. Je vous dis encore une fois que vous ne pouvez sauver Rebecca, vous ne pourrez que vous perdre avec elle. Hâtez-vous d'aller trouver le grand maître. » Jetez-vous à ses pieds et dites-lui
« Ce n'est pas à ses pieds, par le ciel, c'est à la barbe du radoteur que je dirais. »
« Dites-lui donc à sa barbe, » reprit froidement Malvoisin, «
que vous aimez cette juive captive jusqu'à la folie, et plus vous vous étendrez sur votre passion, plus il se hâtera de la terminer par la mort de la belle enchanteresse. Et vous, pris en flagrant délit par l'aveu d'un crime contraire à votre serment, vous ne pourrez pas espérer l'appui de vos frères, et serez obligé peut-être de renoncer à tous les rêves brillants de l'ambition et du pouvoir, pour aller lever une lance mercenaire dans quelque mesquine querelle entre la Flandre et la Bourgogne.
Vous dites la vérité, mal voisin, reprit Brillant de Bois-Guilbert après un instant de réflexion. Je ne veux pas donner à ce vieux fanatique un avantage sur moi. Quant à Rebecca, elle n'a pas mérité de ma part que je risque mon sang et mon honneur pour elle. Je l'abandonne. Oui, je la livre à son destin. À moins que...
Ne modifiez pas cette résolution si sage et si indispensable, reprit Malvoisin. Les femmes ne sont que des jouets qui servent à amuser nos heures de plaisir. L'ambition est l'occupation sérieuse de la vie. Périssent 1000 poupées aussi fragiles que cette juive, plutôt que de voir votre pied viril s'arrêter dans la brillante carrière qui s'étend devant vous. Pour le moment, séparons-nous, car il ne faut pas qu'on nous voie conférer ensemble. Je vais faire disposer la salle pour le jugement.
« Quoi ? Si promptement ? » s'écria Bois-Guilbert.
« Oui, répondit le précepteur. Un procès n'est pas long lorsque le juge a prononcé d'avance la sentence.
« Rebecca, se dit Bois-Guilbert lorsqu'il se trouva seul, tu vas sans doute me coûter cher. Pourrais-je t'abandonner à ton sort, comme le recommande ce froid et souple hypocrite ? Je ferai un effort pour te sauver, mais malheur à toi si tu te montres encore ingrate. Car si j'essuie de nouveaux dédains, ma vengeance égalera mon amour. Il ne faut pas que Bois-Guilbert expose au hasard sa vie et son honneur, si le mépris et les reproches sont sa seule récompense. » À peine le précepteur eut-il donné les ordres nécessaires qu'il fut rejoint par Conrad Montfichet, qui l'informa de la résolution du grand maître de mettre la juive en jugement sans délai pour cause de sorcellerie.
« Tout cela me semble un rêve, » dit le précepteur. « Nous avons assez de médecins juifs qui font des cures merveilleuses sans qu'on les regarde comme sorciers. »
« Le grand maître pense autrement, » reprit Montfichet. « Et Albert, pour te parler franchement, sorcière ou non, il vaut mieux que cette misérable fille meure que de voir Bois-Guilbert perdu pour l'ordre des Templiers ou l'ordre divisé par des dissensions intestines. » Tu connais son rang élevé, sa renommée à la guerre. Tu connais le zèle et le dévouement qu'il inspire à un grand nombre de nos frères. Mais rien de tout cela n'aurait d'influence sur le grand maître s'il fallait considérer Brillant comme le complice et non la victime de cette juive. Réunirait-elle dans sa personne les âmes des 12 tribus ? Il vaut mieux qu'elle périsse seule que d'entraîner dans sa ruine Brillant de Bois-Guilbert.
« Je viens de l'engager à faire le sacrifice de cette jeune fille, » ajouta Malvoisin. « Mais je ne sais si les preuves sont assez fortes pour condamner Rebecca comme sorcière. Est-ce que le grand maître ne reviendra pas sur son dessein quand il ne trouvera que d'aussi faibles preuves ?»«
Il faut leur donner plus de force, Albert, » répliqua Montfichet. « Il faut leur donner plus de force. Me comprends-tu ?»«
Je te comprends, » dit le précepteur, et je n'hésite pas à agir pour le bien et pour la dignité de l'ordre. Mais nous avons bien peu de temps pour trouver les instruments convenables.
Mal voisin, il faut les trouver, dit Conrad, et ce sera un immense avantage pour l'ordre et pour toi. Ce Templestowe n'est qu'une pauvre préceptorerie, celle de Maisonneuve a deux fois sa valeur. Tu connais mon influence sur notre vieux chef. Si tu trouves ceux qui peuvent mener cette affaire à bien, tu seras précepteur de Maison Dieu, dans le fertile pays de Kent. Qu'en dis-tu ?
Parmi les gens de la suite de Bois-Guilbert, répondit Malvoisin, il y a deux hommes que je connais bien. Ils ont été les serviteurs de mon frère Philippe de Malvoisin, et en le quittant, ils sont entrés au service de Front de Bœuf. Et il peut se faire qu'ils sachent quelque chose des sorcelleries de cette femme.
« Va les chercher à l'instant. Ah, écoute, si un ou deux besans d'or peuvent aider leur mémoire, offre-les leur. »
Pour un sequin, ils jureront que la mère qui les a nourris était une sorcière, répondit le précepteur.
Va donc, reprit mon fichier. À midi, cette affaire commence. Je n'ai jamais vu notre chef s'occuper de préparatifs avec plus d'empressement depuis qu'il a condamné au poteau Amel Al-Faghi, musulman converti, qui était retombé dans la foi de Mahomet.
L'énorme cloche du château venait de sonner midi, lorsque Rebecca entendit un piétinement sur l'escalier dérobé conduisant à la chambre qui lui servait de prison. Ce bruit annonçait l'arrivée de plusieurs personnes, et elle ressentit un peu de joie de cette circonstance, car elle était plus effrayée des visites solitaires du violent et féroce Bois Guilbert que de tout autre mal qui pût lui arriver. La porte de sa chambre s'ouvrit, Conrad et le précepteur malvoisin entrèrent, suivis de quatre gardes, vêtus de noir et armés de hallebardes.
« Fille d'une race maudite, dit le précepteur, lève-toi et suis-nous.
Où m'allez-vous conduire ? Demanda Rebecca.
Juive, répondit Conrad, ce n'est pas à toi de questionner, mais d'obéir. Sache néanmoins que tu vas être conduite devant le tribunal du grand maître de notre saint ordre, où tu auras à répondre de tes crimes.
Que le Dieu d'Abraham soit loué !
S'écria Rebecca en croisant ses mains avec dévotion.
Le nom d'un juge, bien qu'il soit l'ennemi de mon peuple, et pour moi comme le nom d'un protecteur. Je vous suis de grand cœur. Permettez-moi seulement de m'envelopper de mon voile. »
Ils descendirent l'escalier d'un pas lent et solennel, traversèrent une longue galerie, et par deux portes battantes placées à l'extrémité, ils entrèrent dans la grande salle où le grand maître avait pour l'occasion établi sa cour de justice. La partie basse de ce vaste appartement était remplie d'écuyers et de yéomen qui firent place, non sans difficulté, à Rebecca, accompagnée du précepteur et de Montfichet, et suivie de la garde des hallebardiers. Et elle marcha droit à la place qui lui était réservée. Comme elle passait à travers la foule les bras croisés et la tête penchée, un chiffon de papier fut glissé dans sa main. Elle le reçut presque sans s'en apercevoir, et elle continua de le tenir sans en examiner le contenu. La certitude qu'elle possédait quelques amis dans cette assemblée auguste lui donna le courage de regarder autour d'elle et d'examiner les personnes parmi lesquelles elle avait été conduite. Elle porta donc ses regards sur la scène que nous allons tâcher de décrire dans le chapitre suivant.